Investir pour RFI.
Le prochain point à la bourse, 13h30, 10h10, tout de suite, Juan Gomez appelle sur l'actualité.
Merci Michael Ponge, reste avec nous, RFI vous donne la parole.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. L'antenne vous appartient dans 30 minutes, comme tous les vendredis, ce sera la libre antenne. L'occasion, vous le savez, de nous appeler ici à Paris pour commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous nous parlez des sujets qui font l'actualité dans votre pays, vous nous parlez des sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale. En tout cas, vous êtes les bienvenus, vous lancez le débat en direct sur notre antenne. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. N'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous avec la rédaction pour mieux comprendre l'actualité, ce sont vos questions. Geneviève Delru, que vous connaissez bien sur notre antenne, elle présente tous les dimanches le magazine Religion du Monde. Geneviève Delru est déjà à mes côtés, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue. On a reçu des questions concernant la décision du pape de créer 17 nouveaux cardinaux. Jima, vous nous appelez de Cotonou, bonjour Jima.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Nous vous écoutons.
Le pape François a annoncé hier la création de 17 nouveaux cardinaux. À cet effet, je voudrais savoir quels sont les critères d'attribution indispensables pour être ordonné cardinal ? Et ensuite, quel message le pape veut-elle faire passer en nommant un cardinal centrafricain ?
Alors, Geneviève Delru, selon la formule d'usage, 17 cardinaux seront créés. On crée des cardinaux, hein, ils ne sont pas nommés, ils sont créés. Tout cela se déroulera dans un mois exactement lors d'un consistoire qui se tiendra au Vatican. Ce n'est pas la première fois que le pape François crée des cardinaux depuis son élection. Mais on a l'impression, finalement, Geneviève Delru, que depuis que François est pape, les critères pour devenir cardinal ont changé.
Absolument, c'est une impression tout à fait juste, Juan. Alors, il y a ce qu'on en appelle les sièges cardinalistes, c'est-à-dire que vous êtes archevêque d'une grande métropole. Moi, je pense à Los Angeles, Chicago, Philadelphie, en France, Paris, Lyon. Bon, vous serez quasiment, enfin dans le passé c'était comme ça, automatiquement un jour, vous serez cardinal. Vous serez élevé au rang de cardinal. Alors que là, on voit avec François que ça change. Ce sont plutôt des hommes que François nomme. Et pourquoi il les nomme ? C'est parce que ces hommes sont prêts, ils sont en fait au cœur de conflits souvent. Mmh. Et là, on le verra effectivement avec Mgr Zapaliga. Ou bien, ils sont au cœur de situations extrêmement difficiles, hein, des tensions ethniques, la misère, la drogue, etc. Donc effectivement, François... Et puis aussi, j'oubliais, aussi aux périphéries. Hein, on le voit, la Papouasie-Nouvelle-Guinée aura son cardinal. Donc voilà, les critères changent totalement. Maintenant, ce sont des hommes que le pape choisit.
Des hommes, des personnalités qui sont finalement à l'image de François.
Ah, totalement. François, effectivement, est beaucoup plus attaché aux hommes, à leurs valeurs, il sait les reconnaître, hein, plutôt que faire des nominations effectivement officielles, j'allais dire.
Ouais. Alors l'archevêque de Bangui, effectivement, est désormais cardinal.
Il sera cardinal.
Il sera cardinal,
oui,
effectivement, dans un mois. Ouais. Il a 49 ans, il est le plus jeune des cardinaux qui seront créés dans les prochaines semaines. Quel message le pape veut-il faire passer en nommant Monseigneur Nzapalainga ?
Eh bien, effectivement, Monseigneur Nzapalainga fait partie de ces hommes qui sont sur des lignes de fracture. Il faut imaginer ce qu'a été la guerre civile en Centrafrique. Et lui a su vraiment trouver, j'allais dire, les mots et l'attitude, hein, pour essayer de calmer, d'apaiser la situation. Il faut se souvenir, par exemple, il s'est beaucoup déplacé en Centrafrique. Et on se souvient notamment de ce jour où il est allé voir les miliciens anti-Balaka. L'ambiance était surchauffée, extrême. Et lui va devoir parler, va devoir trouver les mots pour faire baisser la tension, pour éviter que du sang ne coule encore un peu plus.
Ouais. Il n'a cessé d'appeler au pardon et à la réconciliation.
Totalement. Et à dire, attention, ça n'est pas une guerre, c'est une guerre civile. Ça n'est pas une guerre confessionnelle, parce que là, quand on tombe dans le confessionnel, hein, les anti-Balaka chrétiens contre les musulmans, etc., etc., ça c'est extrêmement dangereux. Il a su le faire, il a su créer avec le pasteur, il ne faut pas l'oublier, et l'imam, hein, de Bangui, une plateforme interreligieuse. Mmh. Et c'est ça que le pape, en fait, en le choisissant comme cardinal, eh bien, c'est ça que le pape soutient.
Ouais. Et c'est aussi Monseigneur Zapalainga, l'homme qui a permis au pape François d'aller à Bangui il y a tout juste un an.
Absolument, parce que s'il se déplace dans son pays un peu partout, s'il mène des tournées à l'étranger, hein, il est venu en 2014 en Europe, eh bien c'est un homme aussi qui est un peu un diplomate en quelque sorte, et il est effectivement l'artisan de la venue l'année dernière du pape François à Bangui. Cela, tout le monde s'en souvient.
Merci beaucoup Geneviève Delrue d'avoir répondu à Jima. On vous retrouve dimanche pour le magazine des religions du monde. C'est à 7h10 temps universel sur l'antenne Monde et 10h10 temps universel sur l'antenne Afrique. Il est 10h16 ici à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Rissot.
Bonjour
Juan
et bonjour à tous les auditeurs des RFM.
Vous avez des questions concernant la situation à Haïti plus d'une semaine après le passage du cyclone Matthew.
Ok, oui. Mais pourquoi le gouvernement d'Haïti n'a pas pu évacuer les gens avant que cela arrive, car l'ouragan était déjà annoncé. Et j'ai l'impression que l'aide est moins importante qu'en 2010 lors du tremblement de terre. Qu'est-ce qui explique cette différence de mobilisation?
Ah, vous avez l'impression que la mobilisation internationale est moindre cette fois-ci qu'en 2010, après le terrible tremblement de terre. Alors effectivement, le nombre de victimes est bien moins élevé qu'il y a 6 ans, mais le passage de l'ouragan Matthew est tout aussi catastrophique. Bonjour Thierry Benlassen.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de l'équipe d'urgence en charge de la crise en Haïti pour l'association d'aide humanitaire Solidarité Internationale. 150 personnes de cette ONG sont actuellement sur place, sur le terrain, pour venir en aide à la population. On va parler dans un instant de l'aide humanitaire, mais d'abord pour répondre à la première question de Rousseau, le gouvernement avait appelé la population des côtes à évacuer.
Alors, exactement, c'est souvent une confusion qu'il y a eu suite au passage de l'ouragan Matthew sur le fait que le gouvernement haïtien n'aurait pas appelé les populations à évacuer les côtes. Si, en fait, il l'a fait pour plusieurs jours avant le passage de l'ouragan. Et, par contre, il y a une réticence de la population sur plusieurs zones de l'île à partir. Tout simplement parce que les gens avaient peur de perdre leurs biens, avaient peur des risques de vol, notamment, pendant leur départ.
Ouais. Effectivement, il y avait la peur d'abandonner sa maison par crainte des pillages, et puis en même temps, la population n'avait pas forcément conscience du danger imminent, malgré les messages répétés du gouvernement pour évacuer les zones. Concernant le constat de notre auditeur, de Rousseau, qui nous appelle de l'Est de la République démocratique du Congo, diriez-vous comme lui que l'aide humanitaire est moins importante cette année qu'il y a 6 ans après le tremblement de terre ?
C'est certain que l'aide humanitaire est moins importante sur Haïti aujourd'hui. C'est certain. Bon, comme vous l'avez dit, il y a un élément central à prendre en compte, c'est que l'ouragan Matthew en 2016 n'est pas le tremblement de terre de 2010. Le nombre de morts, le nombre de victimes n'est pas du tout le même. Quel que soit par ailleurs le côté tragique et la tragédie que rencontre l'île d'Haïti actuellement. Donc il y a cet élément central qui est qu'aujourd'hui, les acteurs humanitaires n'ont pas besoin d'avoir le même déploiement qu'en 2010.
Mais enfin, il y a aussi, alors peut-être que je me trompe, vous êtes mieux placé que moi évidemment pour confirmer ou infirmer, mais il y a l'impression tout de même de ne pas répéter le fiasco de 2010. En 2010, on a bien vu qu'il y avait un manque de coordination entre les grandes agences internationales et les nombreuses ONG qui sont arrivées sur place à Haïti. Il y a eu une mauvaise gestion de l'aide et on a comme l'impression qu'on ne veut pas répéter les mêmes erreurs.
C'est certain. Il y a déjà un élément important, c'est le fait que depuis 2010, il y a un centre d'opération d'urgence nationale, le CUN, haïtien, qui s'est créé. Et aujourd'hui, les autorités haïtiennes sont réellement en mesure de coordonner l'ensemble de l'aide humanitaire, que ce soit à travers leurs propres branches, à travers les associations haïtiennes ou les acteurs internationaux. Dans le cas de Solidarité Internationale, dans le cas d'autres ONG, il y a vraiment la volonté de se plier, de se mettre en rang derrière cette coordination des autorités haïtiennes. L'autre élément aussi, c'est que, en effet, il y a eu énormément d'aide humanitaire qui arrivait sur Haïti en 2010, qui n'était pas toujours appropriée aux besoins de la population. Et aujourd'hui, il y a une volonté de regarder un petit peu plus quels sont les besoins sur le long terme des populations avant de lancer la grande machine humanitaire.
Ouais. En tout cas, l'aide commence tout juste à arriver dans les zones les plus reculées. On l'entend sur notre antenne grâce au reportage de nos envoyés spéciaux, notamment de Stéphanie Schuller. On voit bien que dans certaines zones sinistrées, les habitants sont encore à l'heure actuelle livrés à eux-mêmes plus d'une semaine après le passage de l'ouragan. Des habitants qui recherchent de l'eau, qui recherchent de la nourriture. Vous-même, vous avez des difficultés à acheminer l'aide ?
Oui. En fait, l'ensemble de l'île est touché. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, que ce soit uniquement les zones côtières et les zones de l'ouest de l'île qui seraient particulièrement touchées, en fait, il y a des problématiques de choléra, notamment sur l'est de l'île, des routes entières qui sont coupées, et aujourd'hui, les moyens d'acheminer l'aide sont toujours limités sur l'île. Donc on rencontre une réelle problématique. L'ensemble des populations n'a pas encore pu accéder à une aide humanitaire d'urgence, et on se démène un petit peu en termes de coordination, en termes de mobilisation de moyens pour que d'ici les 5-6 prochains jours, l'ensemble de l'île puisse bénéficier d'une présence.
Merci Thierry Ben Lassen, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous dirigez l'équipe d'urgence qui est en charge de la crise en Haïti pour l'association Solidarité Internationale. 10h21 à Paris, n'oubliez pas dans 20 minutes maintenant la libre antenne, vos réactions sur l'actualité de votre choix. Vous nous appelez, vous souhaitez d'ailleurs réagir à la mobilisation internationale pour Haïti, eh bien nous vous donnerons la parole, 33 9 693 693 70. Bonjour Habib.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Gagnoa, en Côte d'Ivoire, c'est dans le centre-ouest du pays, et vous avez des questions, vous, concernant la réconciliation entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan.
Oui, Juan, récemment, la Turquie et la Russie ont signé un accord portant sur un gazoduc, Turk Stream. Je voudrais savoir comment les Russes ont à se rapprocher de la Turquie aussi rapidement après la brouille sur le plan diplomatique qu'il y a eu entre eux. Et quelles sont les conséquences que ce projet de gazoduc pourra avoir à long terme sur l'acheminement du gaz en Europe.
Ouais. Alors, c'est vrai que la brouille a duré longtemps, plusieurs mois entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. Après, rappelez-vous, la destruction par l'aviation turque d'un bombardier russe, c'était il y a un an, en novembre 2015, au-dessus de la frontière syro-turque. Bonjour Altin Lazaj.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service économique des RFI. Et si c'est vous qui venez répondre à cette question, c'est qu'évidemment, l'intérêt de se réconcilier, ce sont avant tout des intérêts économiques.
Oui, la Russie a un intérêt économique. La récente signature entre les deux pays pour la construction du gazoduc Turk Stream est le meilleur exemple. C'est un gazoduc quand même qui doit permettre d'acheminer de la Russie vers la Turquie et puis l'Europe 31 milliards et demi de mètres cubes de gaz par an. La Turquie est le deuxième client du gaz russe après l'Allemagne et ses besoins en énergie ne cessent de croître. Mais Moscou voit surtout la Turquie comme un moyen de contourner l'ennemi ukrainien, principal pays de transit pour les exportations vers l'Europe. Toujours dans le domaine de l'énergie, la Russie va construire pour 18 milliards d'euros la première centrale nucléaire turque. Il y a aussi un intérêt dans le domaine militaire. Selon les médias turcs, récemment, la Turquie envisagerait d'acquérir un système russe de défense anti-aérien, un contrat de plusieurs milliards de dollars quand même. Le président Vladimir Poutine a annoncé également l'ouverture du marché russe pour les produits agricoles turcs. C'est un moyen de contourner l'embargo européen sur les produits agricoles mis en place contre la Russie depuis le début de la crise ukrainienne. En final, les deux pays ambitionnent de renforcer leurs échanges économiques pour les porter à 100 milliards de dollars.
Voilà, c'est un énorme chiffre. C'est un énorme chiffre et c'est donc une réconciliation pragmatique. On voit bien que les Russes ont besoin des Turcs et les Turcs ont besoin des Russes.
Des Russes.
Voilà. Et donc on se réconcilie même si malgré ce rapprochement, on voit bien encore à l'heure actuelle qu'Ankara et Moscou sont opposés, notamment sur le dossier syrien. Puisque Moscou veut maintenir Bachar el-Assad à la tête de la Syrie alors qu'Ankara réclame son départ. Merci beaucoup Altin Lazaj d'être venu nous expliquer donc cette réconciliation entre Poutine et Tayyip Erdogan. 33 9 693 693 70, ce sera la dernière question de la semaine, il nous reste 5 minutes. Mohamed, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes en Guinée et vous avez des questions concernant le Burundi.
Oui.
On vous écoute.
Le Burundi a décidé de quitter la CPI. J'aimerais savoir quelles sont les procédures à mener pour sortir à la CPI. Et la sortie du Burundi à la CPI lui permettra-t-il de s'échapper à la justice internationale?
Ah, c'est vrai que la procédure est enclenchée, vous l'avez certainement suivi sur notre antenne. Mercredi, le Parlement a massivement approuvé un projet de loi prévoyant le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale. C'est la première fois qu'un pays franchit le pas et décide de quitter cette institution de justice internationale. Bonjour Ezra Sendikoumana.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous suivez évidemment ce dossier. La loi, elle a été votée par le Parlement. Elle doit encore être promulguée par le président burundais. Et ensuite, quelles sont les procédures prévues pour officialiser le retrait de la CPI?
En fait, les procédures pour sortir de la CPI sont très très simplifiées. En fait, il y a un seul article du statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale qui le prévoit. C'est l'article 127. Il dit tout simplement que un État qui veut se retirer n'a qu'à le notifier au secrétaire général de l'ONU qui est le dépositaire de ces statuts. Eh bien, il suffit qu'il le notifie et donc cela est acté.
Ouais, c'est acté, mais un retrait de la CPI ne mettra pas automatiquement le Burundi à l'abri de la justice internationale.
Non, pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que très clairement, donc le retrait, donc comme vous le dites, ne va pas le mettre à l'abri de ces poursuites, parce que cela a été prévu justement dans cet article 127 dont on parlait. Qu'est-ce qui est dit dans cet article? En fait, la communauté internationale dit dans cet article que le retrait n'est effectif qu'une année après, une année donc après avoir notifié au secrétaire général. Donc pendant cette année-là, les poursuites déjà engagées en plus. Les poursuites déjà engagées ne sont pas stoppées par ce retrait.
Donc ça signifie que les affaires qui sont en cours, la Cour pénale internationale va continuer à les examiner.
Ça signifie exactement cela. Donc les affaires en cours continuent à être examinées. Et en plus de cela, toute nouvelle affaire qui peut arriver ou tout crime qui peut arriver pendant l'année avant le retrait effectif, avant qu'il ne soit acté, eh bien, ces affaires-là, la procureure peut les poursuivre sans avoir une autorisation du Conseil de sécurité, comme cela est prévu pour les pays qui sont non signataires.
En revanche, dans un an, lorsque la sortie sera effective, la Cour pénale internationale ne pourra pas elle-même se saisir pour aller enquêter au Burundi. Elle aura besoin, pour le coup, du feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Exactement, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Donc, pour un État non membre, il faut le feu vert du Conseil de sécurité. Mais cela aussi ne met pas à l'abri un pays comme le Burundi, justement parce qu'il y a déjà eu des précédents. C'est le cas pour le Darfour en 2005 et la Libye en 2011.
Oui. Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent la décision du Burundi de se retirer de la Cour pénale internationale. On sait que la CPI a lancé au mois d'avril dernier un examen préliminaire sur des meurtres, des tortures, des viols, pour savoir si tous ces crimes constituent des crimes de guerre. Il y a un collectif d'avocats qui a également déposé sur son bureau une centaine de dossiers de victimes de ces violences. Et puis, il y a aussi d'autres éléments plus récents encore qui ont précipité ce processus de départ.
Ah oui, très récemment, en fait, il y a des experts de l'ONU qui ont rendu un rapport. Ce rapport qui a été rendu public il y a à peu près un mois est très accablant pour le gouvernement burundais parce que c'est la première fois qu'il met directement en cause le gouvernement pour la responsabilité dans de tels crimes. Et ce n'est pas tout. Eh bien, une liste de 12 présumés responsables de ces crimes, dont de nombreux généraux qui sont vraiment proches du président Nkurunziza, ce sont des gens du premier cercle du pouvoir au Burundi, ont été pointés du doigt. Parmi eux, par exemple, le ministre de la Sécurité publique numéro 2, le chef d'état-major, le patron du service national de sécurité. En fait, tout ce que vraiment compte de plus important au Burundi. Et donc, eh bien, tout cela semble donc indiquer, et donc tout cela a poussé le Conseil des droits de l'homme à créer, il y a quelques jours, une commission internationale d'enquête qui a une année pour rendre son rapport.
Ouais, et ça a donc accéléré, évidemment, la volonté du Burundi de quitter la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, Ezra Sendikoumana. On rend l'antenne, c'est la fin de cette première partie. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir à cette décision du Burundi, vous êtes les bienvenus, on peut en parler dans quelques minutes. 33 9 693 693 70. On retrouve la rédaction et on revient donc dans 10 minutes.